c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un anneau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non ! C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans L'Autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Une émission réalisée par les étudiants en master de journalisme à l'ESJ Pro et à l'université Paul Valéry. Je suis Louis Conlogue, accompagné à l'animation par Aurélie Perrache. Bonjour Aurélie.
Bonjour Louis. Pour cette toute première émission, on s'attaque à un sujet qui continue de faire parler à Montpellier, presque 2 ans après son lancement le 21 décembre 2023. Je parle bien évidemment de la gratuité des transports. En septembre dernier, la Cour des comptes a pointé du doigt cette mesure phare du mandat de Michaël Delafosse. Et forcément, à l'approche des prochaines élections municipales, le débat sur la question ne cesse de s'enflammer. Rappelons-le, Montpellier est la première grande métropole à avoir rendu ses transports totalement gratuits. Alors, entre affrontements politiques et vraies questions de fond sur cette expérimentation présentée comme sociale et écologique, on va essayer d'y voir un peu plus clair aujourd'hui.
Avec nous pour en parler, Hugo Deyan, militant écologiste. Il était sur la liste Nous sommes lors des dernières élections. Les Montpellierains plus installés l'ont peut-être aussi connu comme rédacteur du très piquant blog Pas de rose sans épines. À ses côtés, Thierry Blayard, chercheur en économie et professeur d'économie à l'Université de Montpellier, rattaché au laboratoire SEM, le Centre d'économie et de l'environnement de Montpellier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
À noter que nous avons contacté la ville et la métropole de Montpellier, mais faute de disponibilité, aucun de leurs représentants n'a pu se joindre à nous ce soir. Mais, pas de panique. Pour intensifier l'échange et susciter le débat, nous aurons une chronique de Maël Couillard sur les conditions d'accès à cette gratuité pour les sans-abri, ainsi qu'un reportage de Julie Clément et Théoline Contentin qui sont allés à la rencontre de ces étudiants qui prennent le tram.
Alors on va débuter tout de suite sur les propos de Michaël Delafosse. En décembre dernier, il a défendu avec ferveur cette gratuité au micro de France Info. Il a dit, je cite, « Elle permet de concilier pouvoir d'achat et écologie ». Alors je me tourne vers vous, Hugo Deyan. Vous êtes militant écologiste et pourtant vous militez fermement contre cette gratuité. Qu'avez-vous à répondre à ces propos ? Est-ce que finalement la gratuité n'est pas tant une affaire d'écologie ?
Moi, je suis pas militant fervent contre la gratuité, mais j'aimerais qu'on aille juste au-delà des discours et des mots. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre en considération les impacts, les effets et les besoins de la population, en fait, quand on parle de transport. Du coup, Michaël Delafosse a un peu fait du forcing politique en imposant un peu ce terme déjà dans le débat qui, déjà, le terme gratuité peut être un peu remis en question. Mais en plus, pour moi, c'est à qui il s'adresse. Pourquoi les gens se désintéressent des transports en commun la plupart du temps? Et il se trouve que c'est pas forcément pour des raisons de prix le plus souvent. Et ça, c'est des études qui le montrent même à l'échelle nationale. Et je pense qu'aussi des simples enquêtes terrain peuvent le montrer assez facilement. Mais du coup, par exemple, la Fédération nationale des usagers des transports, elle dit que le frein vers le transport en commun plutôt que le prix, parce qu'en fait le transport en commun est déjà très concurrentiel niveau prix par rapport à la voiture par exemple. Il n'y a pas l'entretien, il n'y a pas l'essence, enfin voilà, les tarifs restent quand même assez abordables. Souvent il y a des tarifs sociaux en plus, ce qui manquait à Montpellier, c'est vrai. Mais du coup le plus souvent c'est des choses comme la rapidité, la fréquence, l'amplitude, la proximité, la fiabilité. Et le maillage, le fait qu'on puisse prendre un transport à peu près partout sur le territoire, c'est ça qui est important pour les gens. Et donc pour moi, c'est sur ces leviers-là qu'il faut agir si on veut parler vraiment d'écologie.
Thierry Blayac, votre collègue économiste François Mirabel disait, je cite, Ce n'est pas le prix qui décide l'automobiliste à laisser sa voiture au garage, mais la promesse d'une réduction de son temps de trajet. Est-ce que la Cour des comptes va aussi dans ce sens ?
Alors, la Cour des comptes pointe un certain nombre de facteurs, mais qui ont déjà été soulignés, c'est-à-dire qu'effectivement, le prix, ce n'est pas l'élément principal, hein, puisque le mode de transport individuel, la voiture, est sans doute le plus cher de tous les modes de transport individuel, mais même collectif. C'est des facteurs, je dirais, plutôt en lien avec le côté pratique, de desserte point à point, de maillage parfait du territoire. La route, c'est le réseau mailleux le plus développé. Et donc, on est plus en attente d'une offre qui couvre le territoire et puis de la qualité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'offre, il faut associer la qualité. Le prix est un facteur, quand même, pour un économiste. Je ne vais pas dire que le prix n'est pas un facteur important, mais c'est un facteur qui arrive en complément des autres points que je viens d'évoquer.
D'accord. Merci.
Alors, tout de même, sur le volet environnement, on a l'ATMO Occitanie, donc c'est l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air dans la région. Donc elle souligne quand même une amélioration nette de la qualité de l'air avec une forte baisse du nombre de surfaces surexposées à la pollution de l'air. On parle de moins 67%. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un tout petit impact écologique quand même derrière cette gratuité ? Hugo Deslian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Moi, je pense que de toute façon, les grandes métropoles ont quand même globalement pris le chemin de la piétonnisation, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment imputable à la gratuité en tant que telle, plutôt qu'aux voies qu'on réserve aux piétons, à la difficulté un petit peu des voitures de rentrer dans le centre-ville. Effectivement, après, il y a des choses louables qui ont été faites de ce point de vue-là. Mais du coup, ce que dit le dernier rapport de la Cour des comptes, c'est qu'au final, peu d'automobilistes quittent leur voiture pour monter dans le tram. C'est plutôt des gens qui étaient piétons ou des gens qui étaient cyclistes qui, en fait, profitent du fait que ce soit gratuit, beaucoup plus simple d'entrer dans le tramway et qui décide de l'emprunter. Mais factuellement, on n'a pas vraiment de chiffres qui montrent qu'il y a un switch d'habitude de laisser sa voiture pour prendre un tram, qui souvent est loin, long, et voilà, qui passe très rarement.
Oui, c'est plus un ensemble de choses qui font que la pollution de l'air est un peu meilleure.
Pour moi, oui. C'est ça, oui.
Alors, un autre argument contre cette gratuité, c'est qu'elle représente une trop grande dépense pour la ville. On parle quand même de 40 millions d'euros à l'année. Et d'ailleurs, les Montpelliérains le savent bien, ils payent, mais autrement. Et Thierry Blayac, est-ce que la gratuité existe réellement et comment la ville récupère cet argent ?
Alors la gratuité, ça existe sur le papier pour les usagers, mais qu'il y a quand même toujours quelqu'un qui paie derrière, soit le contribuable, soit les entreprises via le versement mobilité. Donc la gratuité, il y a un économiste qui disait « there is no free lunch », donc ça veut dire « ça n'existe pas vraiment », donc il y a forcément quelqu'un qui paie derrière. Et en économie, on sait que les ressources sont rares, donc si on choisit cet objectif de gratuité pour des raisons de mobilité inclusive, mais également des raisons environnementales, ça veut dire que derrière, on est obligé de ne pas faire une autre action. Et donc l'économiste, il est là pour mettre en balance l'intérêt d'une action vis-à-vis d'une autre et pour le bien-être pour la collectivité. Et ça, c'est, je dirais, l'élément qui manque un peu dans le dossier à la fois Cour des comptes et dans le dossier de l'agglomération.
Oui. En effet, Hugo Deslian, vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Thierry Blayac ?
Par rapport à comment la ville récupère de l'argent, finalement.
Ah oui. Moi, ce qui m'a vraiment perturbé dans cette gratuité qui est assez absurde, c'est qu'au final, on conserve des contrôleurs, on conserve des billetteries, parce qu'en fait, elle n'est pas totale, cette gratuité. Mmh. Typiquement, elle est réservée aux habitants de la métropole. Donc, elle s'en cantonne à des limites vraiment administratives, quoi, qui ne sont même pas forcément vécues par les habitants qui font leur mouvement quotidien de travail ou de loisirs. Et du coup, pour compenser un petit peu, alors c'est une façon qui a été trouvée un peu pour apporter un peu d'argent dans la caisse, mais en fait, en parallèle de la gratuité pour les habitants de la métropole, les tarifs ont quand même été doublés pour les non-habitants de la métropole. Et c'est là où on en vient à la question précédente aussi. Alors, pour moi, quand on a vraiment une pensée écologiste et qu'on a vraiment envie d'influer, c'est aussi sur ces grands mouvements qu'on appelle pendulaires, qui sont assez réguliers, domicile-travail, etc., qu'on aurait pu jouer un petit peu là-dessus, effectivement, en apportant de l'offre, mais surtout pas en doublant le tarif pour des personnes qui, effectivement, vont encore moins prendre le transport en commun, je pense.
Oui. Alors, pas de doute que cette gratuité, elle pose des questions économiques, mais il faut aussi se demander, gratuit, oui, mais pour qui exactement ? Notre journaliste Maëlle Couillard s'est penchée sur cette question en allant sur place à la rencontre de ceux qui, bien qu'habitant à Montpellier, n'ont pas accès à cette gratuité de la même manière que tout le monde. Bonjour Maëlle.
Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais effectivement vous parler d'une question que vous vous êtes peut-être déjà posée en empruntant les transports en commun avec votre passe gratuité dans la poche. Bah, comment est-ce que ça se passe pour les personnes sans domicile fixe ? Bah oui, ça paraît tout con, mais pour bénéficier de ce pass, il faut résider dans la métropole et fournir un justificatif de domicile pour le prouver. Vous le voyez donc venir, comment on prouve qu'on vit à Montpellier si on n'a pas de logement ? J'ai contacté la TAM, le réseau de transport, qui m'a expliqué que l'autorité qui délivre les passes gratuités accepte sans problème les attestations qui sont fournies par le CCAS. Le CCAS, c'est le Centre Communal d'Action Sociale. C'est cette structure qui accompagne les personnes les plus vulnérables dans leurs démarches administratives et dans leur quotidien pour s'assurer de leur insertion et de leur bon accès à leurs droits. Ça concerne donc les personnes porteuses de handicap, les publics précaires et donc les sans domicile fixe. Le CCAS peut aider dans la démarche d'accès au logement, mais ils peuvent aussi servir d'adresse de domiciliation. Parce qu'on n'y pense peut-être pas, mais avoir une adresse, c'est nécessaire pour plein de choses dans la vie quotidienne. Recevoir du courrier, s'inscrire sur une liste électorale, obtenir une carte d'identité, et par la même occasion donc obtenir un pass gratuité à Montpellier. Et oui, pour jouir de tous nos droits de citoyen, il faut résider quelque part. Facile à dire quand on a un chez-soi, mais alors pour les autres, ça se passe comment ? Pour faire une demande de domiciliation auprès du CCAS, il faut être en lien avec la commune pour laquelle on souhaite être domicilié. Ça peut être un emploi, des liens familiaux, un enfant scolarisé ou tout simplement y séjourner. Il faut ensuite remplir un formulaire, évidemment on est en France, ensuite passer un entretien et dans un délai de 2 mois, vous pouvez espérer obtenir une réponse positive. Si c'est positif, vous recevez ladite attestation de domicile à renouveler tous les ans avec une obligation de se présenter ou de contacter le CCAS tous les 3 mois. Sacré processus. Les foyers d'hébergement et d'accueil de la ville peuvent également fournir des justificatifs sous réserve d'être mandatés et certifiés par la métropole. À Montpellier, il y a par exemple la boutique, l'Amicale du Nil, le CSAPA, Arc-en-Ciel, le CHU ou encore l'association GAM. Tous les organismes qui sont agréés sont listés sur le site du réseau de la TAM. Selon le CCAS de Montpellier, sur environ 3000 domiciliations à l'heure active, plus de 2000 dossiers de passe gratuité ont été déposés et acceptés. Mais dans la rue Saint-Guilhem, j'ai rencontré Léa, qui est sans domicile depuis 7 ans. Quand je lui ai donné ce chiffre des 2000 dossiers de passe gratuité, elle a rigolé, elle a explosé de rire et elle m'a dit « Mais c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue aujourd'hui, personne ne fait ça. »
Bah, c'est pour que la SDF ne paye le transport, que ce soit tram, que ce soit... Bon, si le train, de temps en temps, on n'a pas le choix, mais le tram, non, à Montpellier. Non. Parce que quand t'es dehors, il y a tellement de démarches qui tournent en rond qu'on n'a pas que ça à faire. Il y a tellement de trucs, parce que sinon, on ne serait pas dehors. Et c'est tellement de démarches qui tournent en rond, qui n'aboutissent soit en mode trop longtemps, soit en mode jamais. On pense pas à dire « Oh, bah tiens, je vais faire une domiciliation pour avoir place gratuité. » Génial, c'est la démarche du lundi matin. Et là, en mode, ouais, déjà, je vais faire mes soins, genre, CMU, ça, prendre ma douche. Tu vois, déjà, quand ça fait un bon moment que t'es dehors, bon, je sais pas pour moi, personnellement, ça fait 7 ans que je suis dehors. Des fois, t'as même plus la foi d'aller aux assos, de voir toute la zone pour aller prendre ta putain de douche.
Le moyen le plus efficace, c'est de frauder. Mais qui dit fraude dit risque d'amende si les contrôleurs passent par là. Léa me dit alors que de toute façon, ils peuvent bien lui mettre une amende, et elle n'a de toute manière pas de quoi la payer. Sinon, elle aurait pris un ticket. Bah oui, c'est QFD. Alors, 2 options, soit tu te barres vite, soit tu pries pour tomber sur un contrôleur conciliant. Pour Léa, ça dépend de plusieurs facteurs.
Parce que forcément, il y en a qui sont morts, qui sont bourrés, qui sont casse-couilles, leur chien fout le bordel. Après, il y en a des cons aussi, des contrôleurs. Mais si tu tombes sur le bon contrôleur, que le chien est de bonne humeur, toi aussi, t'as pas une bière dans la main, même si t'as une bière dans la main, que ça passe. Moi, ça m'est arrivé, même dans le train, hein, ça m'est arrivé, dans le tram. J'ai genre dit en mode, ouais, ben, je suis SDF. Après, ils ont leur tête, ils nous voient, c'est pas qu'ils nous connaissent. Mais... Ah, ils nous voient plus que les autres personnes.
Alors voilà, même si la TAM accepte les justificatifs de plusieurs associations et centres de domiciliation, bah entreprendre la démarche, c'est franchement pas la priorité pour les gens à la rue. La gratuité n'est pas ici garante d'égalité puisque subsistent les inégalités administratives et les inégalités d'accès à ses propres droits. Il reste donc à se demander ce qu'il est possible de faire pour peut-être simplifier la démarche et dans l'éventualité d'un retour à la non-gratuité, des tarifs réduits, voire gratuits pour les personnes dans le besoin. Parce qu'il y a encore trop de gens qui n'ont pas 1,90€ par jour pour se nourrir, alors vous pensez bien qu'un ticket de transport, non plus. Ou alors carrément, hein, si la métropole veut s'autoriser une petite folie pour aller vers l'égalité totale, ben la gratuité pour tous et pour toutes, sans passe, sans condition et sans justificatif.
Merci Maëlle.
Du coup, Hugo Dahan, est-ce que quelque part cette gratuité ne stigmatise pas certaines personnes comme les sans-abri, comme on vient de l'entendre ou pas?
Bah pour moi, c'est une gratuité calculée entre deux chaises. Donc évidemment, en fait, on maintient les difficultés administratives pour quelques-uns. Je savais que du coup, y avait possibilité en tout cas d'obtenir. Mais effectivement, en fait, quand on parle de public hyper précaire, en fait, un formulaire, c'est une montagne pour certaines personnes qui doivent déjà galérer au quotidien et en fait on a fait un non-choix, c'est-à-dire celui d'avoir une gratuité en tout cas annoncée en fanfare voilà, et à la fois d'avoir les formalités administratives d'un système payant quoi, et donc forcément il y a des gens qui en payent le prix quoi.
Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inégalité concernant, par exemple, les personnes qui ne vivent pas dans l'agglo de Montpellier, mais qui y travaillent et qui ne bénéficient pas du tout de cette gratuité?
Enfin, moi, je pense qu'il y a plein d'inégalités après qui ressortent. Effectivement, géographiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense que doubler le tarif des gens qui n'habitent pas la métropole, alors que déjà, on a affaire quand même à un effet de métropolisation, c'est-à-dire des villes-centres qui amassent un peu l'emploi, la culture, les richesses. Et le message renvoyé en doublant les tarifs comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas trop les bienvenus ici. Et c'est un peu... On capitalise, on profite un peu du rayonnement, de la richesse produite, mais en même temps, on la renvoie pas, quoi. Et en fait, si t'as le malheur d'habiter dans la mauvaise ville, à côté, c'est bon. Et en fait, 10 km plus loin, en fait, tu ne fais plus partie du périmètre. Bon, ça pose question. Et après, moi, vu qu'on parle un peu de précarité, tout ça, enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui échappent à cette gratuité. Typiquement, moi, je pense aux personnes qui font le ménage. Il y a eu les femmes de ménage de la société Honnête au CHU qui faisaient grève. Et en fait, dans les questions aussi sur leur quotidien, etc., ben en fait, c'est des horaires tellement tôt le matin, par exemple, ou des fois, il y a des horaires aussi tellement tard le soir, qu'en fait, ils peuvent même pas prendre un tramway, ces personnes, alors qu'en fait, leur situation économique ferait qu'ils devraient être prioritaires aussi sur le papier quand on met des politiques sociales, en tout cas, quand on se revendique de mener des politiques sociales. Donc voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais je pense qu'il y a plein de profils comme ça qui sont mis de côté par ces envolées un peu lyriques qui donnent très envie sur le papier, mais qui concrètement se fracassent avec le quotidien et la misère sociale de la ville.
Et Thierry Berrière, vous avez quelque chose à ajouter à cette stigmatisation, cette inégalité?
Alors, la seule obligation légale, c'est effectivement de fournir un tarif qu'on appelle solidaire, qui doit être au moins une réduction de 50% du prix du billet pour les 10% des personnes les plus pauvres. Ça, c'est la seule obligation légale dans toutes les autorités, pour toutes les autorités, autorités organisatrices de mobilité. La gratuité, ça va au-delà de ça, mais effectivement, c'est difficile parce que se pose la question de... Dans ce qu'évoquait l'autre intervenant, il y a des problèmes d'amplitude horaire qui empêchent l'accès à ce service gratuit, mais ces problèmes d'amplitude horaire sont des problèmes d'offres et d'offres qu'il faut financer. Donc c'est l'inconvénient de la gratuité en tant que telle, c'est qu'elle va freiner le développement de l'offre de transport sur le territoire. Et donc, va poser d'autres questions de toujours plus, je dirais, marginaliser un certain nombre de gens qui ne sont pas au bon endroit sur le territoire de la métropole.
Et d'un point de vue économique, est-ce que c'est bien de faire reposer tout ce système de gratuité sur une partie de personnes qui viennent chaque jour à Montpellier, qui payent leur ticket, mais qui n'y résident pas?
Alors, effectivement, ça, c'est les recettes. Les recettes, elles reposent sur ces usagers-là. Mais il y a d'autres recettes qui viennent du versement mobilité et des subventions des collectivités. Donc il y a une petite part. Effectivement, si la question est est-ce qu'on serait plus efficace dans la réduction de l'impact environnemental en octroyant la gratuité à des gens qui prennent leur voiture pour venir hors agglo, pour venir à Montpellier, c'est une question qu'il faut se poser, c'est une question qu'il faut étudier. Ça s'appelle l'effet de débordement des biens publics locaux. Le problème, c'est que la gratuité serait financée par des résidents de l'agglo et elle bénéficierait à des non-résidents de l'agglo. Donc ça soulève aussi des questions. Il n'y a pas de façon simple de résoudre le problème. Le problème peut être résolu par des mesures plus ciblées que la gratuité pour une certaine catégorie de personnes et pas d'autres. Mais ça demande à être étudié.
Très bien, merci.
Bien sûr qu'il y aura plusieurs études qui peuvent être communes. Mais une autre catégorie de la population a vu sa vie assez impactée par la gratuité. C'est bien évidemment les étudiants qui ont d'ailleurs été les premiers à avoir été ciblés en 2022. Nos journalistes Julie Clément et Théoline Contentin sont allés sur le terrain pour leur poser la question.
À Montpellier, le pass gratuité divise et se retrouve au cœur des débats à quelques mois des élections municipales de 2026. N'est-ce pas Julie ?
Eh oui Théoline, contrairement à la plupart des villes françaises où les transports sont payants, Montpellier fait figure d'exception en misant sur la gratuité totale. Élue meilleure ville étudiante en 2024, celle que l'on surnomme la surdouée, compte plus de 80 000 étudiants, un public directement concerné par cette mesure.
Pour certains d'entre eux, la gratuité des transports a changé leurs habitudes de déplacement. Avant d'arriver à la faculté d'éducation de Montpellier, Camilla, 24 ans, faisait ses études à Nancy.
C'était payant et on n'avait pas de tram. Pas de tram et c'était du coup moins bien desservi qu'ici. C'était entre 1,50 et 2 euros le ticket. Je prenais la voiture habituellement et c'est pratique d'avoir les trams à disposition pour aller jusqu'à la fac, quoi. Surtout que je suis à 30 minutes. En tram, en voiture, c'est galère quand il y a les bouchons et tout, quoi.
Pourtant, dans le cas où le réseau redeviendrait payant, elle avoue qu'elle l'utilisera sûrement à nouveau.
Ce serait embêtant, franchement. Sauf s'ils arrivent à mettre en place des abonnements pas trop chers. Enfin, moi, je sais qu'il y avait un abonnement 15 euros et quelques le mois. Okay. Ça, je trouve que ça passe encore quand t'es étudiant, mais si c'était plus, quoi. Mais le fait que ce soit gratuit, ça m'encourage à le prendre parce que sinon, je pense que je viendrai en voiture à la fac.
Étudiante parisienne en Master 2 de géographie, Tiffany, 23 ans, est actuellement à Montpellier pour effectuer son stage de fin d'année. Pour elle, bénéficier du tramway gratuit est un avantage considérable face aux tarifs parisiens.
Ils sont chers. Je paye à l'année, je ne me rappelle plus combien c'est, mais c'est autour de 600.
Du coup, ça m'évite des frais. Avec un salaire de stagiaire, c'est à peu près 4 euros de l'heure, donc c'est pas non plus énorme. C'est sympa.
Et là, du coup, j'aurais plus le droit au statut étudiant pour avoir mon pass à Paris. Donc je ne sais pas comment je vais faire. C'est une question que je me pose.
Un allègement des dépenses que Quentin, 20 ans, ancien étudiant montpelliérain qui est désormais en école de commerce à Lille, a également observé.
Ce qui a changé, c'est bien sûr juste le coût. Ça a réduit un coût assez important dans le budget pour l'année. À Lille, je paye les transports. Je crois que c'est, je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est 190 euros les 10 mois avec l'accès au vélo gratuit pour les étudiants. Et du coup, c'est sûr que là, je paye par mois, je paye une certaine somme, donc c'est un peu compliqué. Mais à Lille, il y a le métro qu'à Montpellier on n'a pas, donc il y a plus de choses qui sont comprises dans cet abonnement. Maintenant, c'est sûr que ça représente un coût supplémentaire.
De son côté, Bilal, 23 ans, étudiant en L2 à la faculté de droit de Montpellier, a vécu la transition vers la gratuité totale.
Ça fait du bien de voir que ça fait des économies en plus, surtout quand on est étudiant, quoi. J'ai vraiment senti une différence et puis même, c'était simple à mettre en place. Il a fallu faire quelques clics, une photo et une attente de 2-3 jours.
Cependant, si les transports redeviennent payants, il serait prêt à les prendre en charge.
Je me souviens juste du tarif à l'année, c'était 326 euros, je crois. Mais ça ne me dérangerait pas, je ne sais pas, admettons une trentaine d'euros par mois. Moi, ça m'irait du moment que j'ai aussi le parking inclus, parce que j'ai la voiture.
Hugo Deyan, comme on vient de l'entendre, mais pour certains, la gratuité, c'est quelque chose de vital. Alors, imaginons que aux prochaines municipales, votre liste gagne les élections et du coup supprime cette gratuité. Qu'est-ce qui sera mis en place pour ces étudiants, pour ces étudiants ?
Alors, on n'en est pas là, mais si j'imagine, moi, je pense qu'en tout cas, et ce qui est fait souvent dans beaucoup de communes et beaucoup d'agglomérations, gratuité ou pas, c'est quand même un tarif, une tarification pour, alors des fois pour les étudiants, pour le statut étudiant, mais des fois aussi pour la, juste la tranche d'âge. En dessous de 25 ans, par exemple, ça existe. Et c'est vrai que ça, avant, c'était quand même un gros impensé à Montpellier. Je me souviens, il y avait des tarifs qui étaient quand même énormes pour les étudiants, qui ne prenaient pas en compte si on était boursier ou pas. En plus, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui permettait de souffler de ce point de vue-là. Et donc, pour moi, clairement, en tout cas pour les étudiants, c'est une mesure qui a fait beaucoup de bien. Et je vois mal comment on pourrait revenir en arrière, en tout cas pour cette tranche d'âge-là.
Très bien. Thierry Blayac, j'aimerais vous faire réagir à un avertissement de la Cour des comptes qui dit, je cite, « Si la gratuité permet d'augmenter la fréquentation sans offre supplémentaire, le risque est ensuite de ne pas avoir les moyens pour financer l'augmentation ou l'amélioration du service. » Donc, est-ce que vous pensez que cette gratuité, elle peut nuire à la qualité du réseau de transport de la ville ?
Alors, clairement, c'est l'enjeu majeur de la gratuité, c'est-à-dire cette induction de fréquentation due à la gratuité qui génère et qui dégrade la qualité du service, des trams plus remplis, des bus plus remplis, des problèmes de dégradation de la qualité. Donc c'est ça, c'est l'enjeu. Alors, en général, les économistes voient ça. Enfin, le transport collectif, en général, les économistes le qualifient comme un bien à qualité variable, variable avec le trafic. Alors c'est un peu spécifique, je vais prendre quelques secondes pour l'expliquer. C'est un cas très particulier où la qualité s'améliore lorsque le trafic augmente. Pourquoi ? Parce qu'en général, l'opérateur y répond en améliorant la fréquence. C'est-à-dire en heure de pointe, par exemple, il y a plus de tramways, donc le temps d'attente entre deux rames de tramway est plus réduite. Donc le consommateur ou l'usager se trouve gagnant, donc son coût généralisé des déplacements diminue de ce point de vue-là. Le souci, c'est que passé un certain seuil de fréquentation, on ne peut plus gagner sur cet effet qu'on appelle l'effet mooring. Et donc, l'effet mooring qui justifie que le transport public soit subventionné. Et au-delà de ça, en fait, on a des espèces d'externalités négatives qui jouent. Et donc, la qualité se dégrade, le coût généralisé augmente. Et donc, ça justifierait que de nouveau le transport collectif soit taxé et non pas subventionné. Donc voilà la position des économistes en général sur les problèmes que pose la qualité et la gratuité sur la qualité. Donc effectivement, c'est le vrai enjeu. Sans augmenter l'offre, sans améliorer la qualité, sans maintenir la qualité, cet effet fréquentation risque de s'atténuer progressivement avec les années.
On va conclure avec une question d'actualité, hein, quand même. Récemment, donc depuis le week-end dernier, la ligne 1 a été rallongée jusqu'à la gare Sud de France. Je pense que beaucoup de Montpellierains sont assez heureux de cela. Ce qui a aussi des répercussions sur d'autres lignes, notamment la ligne 2, qui se voit supprimer certains trams. Hugo Deyan, est-ce que la gratuité par rapport à ce rallongement ne montre pas ses failles, quelque part, pour continuer à maintenir une assez bonne qualité de service ?
Moi, en vrai, je suis quand même assez triste qu'on salue à ce point l'arrivée d'un nouvel arrêt de tram sur la ligne 1 qui mène à une gare que pas grand monde n'a voulu. Enfin, à la base, moi, je me souviens quand même, il faut se rappeler des choses un petit peu. C'était quand même un grand projet inutile et imposé. En pleine zone agricole et naturelle, on a quand même mis une gare en zone inondable. Enfin, voilà, ça, c'est juste pour rappeler un peu le constat. Donc,
elle
là, maintenant.
Elle était qualifiée de gare fantôme à de nombreuses
de
reprises.
Gare fantôme,
oui.
Et texto, hein, dans les documents qui ont été votés à sa création, c'est du coup, on l'a fait. Comme c'est une gare, on a le droit de la mettre en zone inondable parce que c'est un bâtiment d'intérêt général. Et puis, textuellement, dans les textes qui ont été votés après, c'est on va aussi mettre un droit d'urbaniser autour parce qu'en fait, il faut la rendre viable par des activités autour. Donc en fait, c'est comment on a installé une gare en plein milieu d'un champ et qu'ensuite, on a dit il faut qu'on crée tout un quartier autour pour rendre viable cette gare. Donc voilà. Donc moi, juste quand on dit que cette extension, c'est un plus dans la mobilité, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et je pense que c'est un peu ça qui manque aussi dans cette politique très de la communication localement. c'est qu'on oublie pourquoi on fait les choses, pour qui on les fait. Et clairement, là, sur le papier, en fait, quand on prend un peu de recul, à part les promoteurs, je ne vois pas qui a gagné dans cette affaire. Et c'est pareil pour la ligne 5. On a quand même, on a quand même des années de retard sur les plans initiaux. Et aujourd'hui, on a quand même une municipalité qui gère la métropole, qui n'a pas vraiment d'autres plans de transport, en fait, pour les années futures. Et j'ai l'impression, moi, que cette gratuité, elle ampute nos finances et elle est couplée à un manque de visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire des transports, alors même qu'on est dans une métropole qui explose en termes de démographie.
D'accord.
Très bien. Et voilà, c'est la fin de cette émission de l'année de l'autruche. On l'a vu, la gratuité des transports soulève autant d'enthousiasme que de débats entre inclusion sociale, faisabilité économique et limites sur le terrain. On peut dire que la question reste ouverte.
Un grand merci à nos invités, Hugo Dayan et Thierry Blayac, et d'avoir partagé leur analyse avec nous. Et merci aussi à Maëlle Couillard et à nos reporters, Julie Clément et Théoline Contentel.
Et bien sûr, merci à vous qui nous écoutez. À très vite sur Divergence.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça, non!
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un moineau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah, t'es embêtant, non, les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.